Donc on retourne dans le livre des juges, livre des juges au chapitre 6, et il nous restait donc la fin du chapitre à étudier et à voir ensemble. Donc juges chapitre 6. Alors dans la leçon précédente, hein, on avait vu que la foi de Gédéon avait été démontrée, mise en action, hein, lorsque l'Éternel lui avait demandé de détruire l'autel de Baal qui appartenait à son père et au clan. Hein, et même si Gédéon il avait agi de nuit, hein, peut-être par crainte, hein, de ce que les autres pourraient faire ou penser, et puis bon, ces craintes, elles sont avérées quand même justifiées. Hein, le lendemain, quand les gens ils ont su que c'était lui qui avait détruit cette idole, hein, ils voulaient le mettre à mort. Mais il a tout de même fait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Et c'est ça que nous voulions retenir la dernière fois. Et dans la suite de ce récit, au chapitre 6, on va voir que ben, cette foi, elle va être encore une fois quelque part mise à l'épreuve. On va voir peut-être la faiblesse hein, de la foi de Gédéon. Et encore une fois, je veux dire, on peut pas non plus trop le blâmer hein, en regardant le contexte historique et spirituel dans lequel il vivait. Le fait que bon, ce n'était que vraiment très récemment que l'Éternel l'avait appelé à son service, mais on va voir que peut-être il y a des doutes qui ont commencé à se saisir hein, de ses pensées, de son cœur. Peut-être qu'il y avait des incertitudes hein, par rapport à ce que il devait faire et accomplir. Mais voilà, là on a deux aspects de Gédéon. Hein, on a vu la foi mise en action et quelque part, bon, même si les villageois n'ont pas tout de suite su que c'était lui, bon, il avait quand même des hommes avec lui qui ont su que, ben tiens, Gédéon, voilà, il se lève pour l'Éternel, il fait quelque chose. Donc il y a une foi qui est manifestée publiquement. Mais là, à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre, c'est plutôt la foi de Gédéon un peu en privé hein, que l'on va voir. Nous lisons donc au verset 33. Que tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Et Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser et Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa le toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Je crois que la première chose que je voulais souligner par rapport à ces quelques versets, c'est de voir que la foi de Gédéon a des effets, n'est-ce pas? D'abord, la vie par la foi, elle habilite, c'est-à-dire qu'elle rend capable, elle nous rend aptes d'accomplir les choses. Et dans ces versets, oui, on voit un Gédéon qui est plein d'énergie, plein de fougue, qui est enthousiasmé par les événements qui viennent de se produire. Et face aux ennemis qui se sont rassemblés en grand nombre, on le voit, eh bien, prendre les devants, hein, sonner la trompette, rassembler d'abord son clan, la tribu, hein, d'amener les enfants d'Israël à sa suite pour aller affronter l'ennemi. L'ennemi visible ici de Gédéon, hein, ce sont toujours les mêmes. Hein, ce sont ceux qui étaient là pour eh bien empêcher eh bien ces enfants d'Israël de profiter de leur dur labeur, hein, de voler leur récolte ou de les saccager. Ils étaient rassemblés là en grand nombre. Et même si on regarde à ce qu'on voit dans le chapitre suivant, hein, ils étaient plus de 120, 130 000 soldats, hommes qui étaient là, qui étaient venus hein, pour saccager et voler et piller. Et donc, Ce que l'on sait, c'est que ici, hein, dans cette vallée de Jisréel où se sont réunis, hein, tous ces soldats, bah, la menace, elle est là, elle est présente, elle est visible. Hein, cette vallée de Jisréel, c'était la vallée qui était la plus grande, vraisemblablement la plus fertile également de tout Israël, et une grande partie donc des récoltes qui nourrissaient la nation, eh bien, étaient produites dans cette vallée. Et donc le fait que l'ennemi vienne pour envahir cette région, s'emparer de la moisson, ça aurait porté un coup grave justement à l'approvisionnement alimentaire de toute la nation. Cette vallée du Jisréel, on la connaît aussi sous un autre nom, hein, la vallée de Megiddo. Hein, de grandes batailles, de nombreuses grandes batailles ont été livrées dans cette vallée. Et de ce que les Écritures nous disent aussi, hein, c'est là que la plus grande et la finale, la bataille finale aura lieu lorsque le Seigneur lui-même vaincra l'Antéchrist et ses armées à la fin de la période des tribulations. Donc verset 34, on voit cet engagement de Gédéon. Lorsque l'ennemi arrive, il a le courage de faire ce qu'aucun homme n'a fait depuis plus de 7 ans. Ça fait 7 années qu'ils subissent cette oppression et personne ne s'est levé jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce que l'Éternel fit appel à Gédéon. Lui montrant que lui l'avait choisi pour libérer son peuple. Alors, personne, effectivement, n'avait eu le courage de prendre cette trompette, de sonner le rassemblement, d'appeler à la mobilisation pour affronter les ennemis. Et on voit, eh bien, un jeune Gédéon prêt à en découdre, prêt à remplir ses responsabilités, à accomplir la tâche qui lui a été confiée. Hein, il appelle, il sonne la trompette et cela signale donc ce rassemblement pour, eh bien, déjà, sa famille, son clan et sa tribu. Mais c'est surtout le fait que ce qui va le motiver, ce qui va alimenter, on va dire, cette force et cet enthousiasme, c'est quoi? Le verset 34 le dit tout simplement. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et c'est de là que venait ce courage, de prendre les devants, d'être sous la direction de l'Esprit Saint, de sonner l'appel à la guerre et d'être celui qui allait mener le peuple dans cette bataille. Alors, effectivement, quand on regarde à ce verset-là, à ce passage, et qu'on revient au début du chapitre, on ne voit pas le même Gédéon. C'est quelqu'un qui est déjà différent, c'est quelqu'un qui a déjà changé dans sa perspective de voir les choses, dans son désir de ne plus être caché, mais de chercher à vraiment arrêter ce problème de cette oppression qui faisait tant de mal au peuple. Et donc là, on a un Gédéon qui est résolu, on voit un Gédéon qui est déterminé, peut-être même audacieux, on voit un vrai changement qui s'est produit dans la vie de cet homme. Mais ce verset 34 nous donne cette information importante, c'est qu'il était revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et ça, c'est ce qui a permis à Gédéon, d'avoir cette force, d'avoir ce courage. Ce même Esprit Saint, c'est celui que nous connaissons, nous, aujourd'hui. C'est ce même Esprit Saint dans le Nouveau Testament dont il nous est dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de courage, de force, de sagesse. Donc, on a ce même Esprit Saint aujourd'hui que celui qui a revêtu ici Gédéon. On a déjà parlé que sous l'Ancienne Alliance, le ministère du Saint-Esprit n'était pas le même que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le fait que le Saint-Esprit aujourd'hui eh bien, est accordé à chaque personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas le cas. L'Esprit Saint pouvait venir et puis il pouvait se retirer. Et on l'a vu à différentes occasions où ça s'est produit, ou parce que une des personnes n'écoutait pas l'Éternel, désobéissait, tombait dans le péché, l'Esprit de l'Éternel se retirait d'une telle personne. C'était la crainte même du roi David, lorsqu'il avait péché, et qu'on lit dans son psaume, ne me retire pas ton esprit. Donc on comprend que ici, l'Esprit Saint, c'est cette force, cette puissance qui donne ce courage à Gédéon, malgré le fait que, comme il a dit, qui suis-je? Qui suis-je, hein, parmi ma nation? Hein, je suis pas quelqu'un de connu, mais voilà, avec la force de l'Esprit Saint, il était prêt à être celui que Dieu avait choisi pour diriger ce peuple vers la liberté. Et on voit que cette foi qui anima Gédéon, ben cette vie par la foi, elle a aussi inspiré les autres, n'est-ce pas? Lorsque Gédéon fait retentir cette trompette, eh bien le peuple commence à se rallier à lui. On voit des hommes qui rejoignent Gédéon, alors que quelques versets auparavant, qu'est-ce qu'on avait? Où est celui qui a abattu l'autel de Baal? Qu'on le mette à mort. Et après, bon, il y a la défense de son papa, bien sûr. Hein, si Baal, il a besoin d'être défendu, qu'il se défende lui-même. On lui donne même hein, ce surnom de Jérubal, hein, parce que le Baal plaide contre lui, parce qu'il a renversé son autel. Et là, maintenant, il y a quelque chose de différent. Alors, on n'a pas forcément une notion de temps, de combien de temps s'est déroulé entre, mais ce que je veux souligner, c'est que quand on a quelqu'un qui va vivre par la foi, et qui va montrer qu'il est animé de l'Esprit Saint, il va montrer qu'il vit cette vie par la foi, ça va inspirer les autres à vouloir vivre par la foi également. Et donc, de toute évidence, sa famille, hein, ceux qui vivaient autour de lui, eh bien, ils avaient fini par suivre non seulement Gédéon, mais aussi, eh bien, revenir à l'Éternel comme Gédéon, hein, l'avait fait. Et donc, on a des personnes qui, oui, sont transformées. Au lieu de vouloir sa mort, eh ben, ils sont prêts à le suivre. Ils sont prêts à accepter son autorité, à l'accepter comme celui qui allait mener vers la libération. Donc on ne sait jamais, pour nous-mêmes, ce que l'on va vivre par la foi, ce que l'on va faire par la foi, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir dans la vie des autres. Mais sachant que ça peut avoir un tel impact, ben, nous ne devrions pas hésiter à vivre notre foi de manière ouverte, de manière visible, et d'être cet exemple positif sur notre famille, sur nos amis, nos proches, les voisins et collègues de travail. Et lorsque l'on fait preuve ainsi, comme Gédéon, hein, de cet engagement pour l'Éternel, eh bien, ça inspire les autres. Ça inspire les autres de voir, mais Gédéon, c'était qui à la base? Mais un, c'est le fils de celui qui a bâti cet autel à Baal. Et c'est celui qui, maintenant, il a détruit cet autel à Baal. Et puis, son papa, il vient de dire, ben maintenant, si Baal, il est vraiment Dieu, ben qu'il se défende lui-même, et qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Eh ben alors. Et les gens commencent à réfléchir, à analyser la situation, et à voir aussi les changements dans la vie de Gédéon. Et c'est la même chose pour nous. Hein, lorsque nous acceptons de vivre par la foi, notre foi va inspirer les autres à le faire également. Et donc on voit des personnes qui sont prêtes à suivre, qui sont dévouées. Hein, on voit que lorsqu'il envoie des messagers dans tout Manassé, etc., qu'il envoie des messagers dans Aser et Zabulon et Naphtali, en fait, les tribus, là, elles sont venues à la rencontre du messager. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà entendu que quelque chose était en train de se préparer. Elles avaient déjà probablement entendu que, bah tiens, il y a ce gars-là, Gédéon, voilà ce qu'il a fait. Et on les voit donc venir à la rencontre des messagers, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas attendu que les messagers viennent à leur rencontre. Ils sont eux-mêmes venus prêter main-forte à Gédéon. Et dans le chapitre 7, hein, au verset 3, on comprend en faisant le calcul hein, que c'était plus de 32 000 hommes hein, qui ont rejoint les rangs de Gédéon. Alors là, il y a de quoi d'être encouragé, de quoi être fortifié, de voir un tel nombre de personnes soutenir et prêts à le suivre hein, dans cette bataille. Mais c'est vrai que bon, 32 000 hommes, ça paraît vraiment très faible face à, eh bien, comme on lit aussi là plus loin, 135 000 soldats d'Amalek et des autres rois de Madian, etc. Ça paraît peu. Mais comme on va le voir plus tard, Dieu, il n'a pas besoin d'autant d'hommes pour vaincre les ennemis de son peuple. Et on verra que, avant même que la poussière hein, ne retombe et que l'ennemi soit vaincu, Dieu va utiliser seulement 300 soldats pour eh bien, anéantir cette armée de 135 000 hommes. Mais voilà, je crois que même pour nous, en regardant à ce récit-là et puis à notre situation aujourd'hui, on vit à une époque où dès qu'on dit qu'on est chrétien, ça suffit de quoi? Comment est-ce que tu es chrétien, etc. On a ce sentiment d'être en infériorité numérique et c'est le cas, c'est une réalité, hein, il faut pas se leurrer là-dessus. Et quand on est chrétien et qu'on veut être fidèle aux Écritures, on est encore en plus faible nombre hein, que ce qu'on aimerait l'être. Mais voilà, on ne doit pas se laisser troubler par cela. Pourquoi? Parce que déjà, un, le Seigneur lui-même, il a dit ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur, j'ai vaincu le monde, hein, de ne pas avoir à craindre la puissance de l'ennemi, en sachant qui est celui qui se tient à nos côtés. Et donc on doit, comme Gédéon, se reposer sur la puissance de Dieu, cette puissance hein, qui nous permet justement de vivre par la foi et d'accomplir des choses qu'on ne pensait même pas nous-mêmes être capables d'accomplir. Alors pourquoi souligner hein, tout ceci? Parce qu'on sait que en regardant à la vie de Gédéon, on voit oui cette foi qui a été mise en action, cette foi qui l'a animé, habité, et puis l'inspiration que ça a apporté aux autres. On voit aussi que malgré cela, la foi de Gédéon, elle connaît aussi des doutes. Elle connaît des doutes. Et notre foi, tout comme celle de Gédéon, elle a besoin d'être fortifiée, elle a besoin d'être alimentée, elle a besoin de grandir et de progresser, parce que si on écoute les doutes et on laisse les doutes agir, ça finit justement par dévorer notre foi. Et la troisième chose que je tiens à souligner dans ce passage, et surtout les versets 36 à 40, c'est cette vie par la foi malgré les doutes. C'est-à-dire que même si on a des doutes, ça ne doit pas nous amener à dire ben, je ne peux plus vivre par la foi parce que j'ai des doutes. D'accord? De nombreuses personnes dans les Écritures ont eu des doutes. Et à travers les siècles, beaucoup de chrétiens ont eu des doutes. Et même parmi les serviteurs de Dieu, beaucoup ont des doutes. Mais Gédéon ici a fait preuve d'un grand courage, oui, en appelant le peuple à la guerre, en rassemblant cette armée. Mais en privé, on voit Gédéon qui est encore, donc, envahi par le doute quant à ce que le Seigneur l'appelle à faire, n'est-ce pas? Et dans ces versets, on note, hein, en verset 36, que bah, si tu veux délivrer Israël par ma main, attends, mais l'Éternel te l'a déjà dit cela. Mais l'impression de Gédéon, c'est est-ce que je suis vraiment celui qui est le mieux, le meilleur pour ce travail là. Donc, si tu veux en délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Donc, il met un défi. Il a besoin d'une preuve que l'Éternel va tenir ses promesses. Et donc, Gédéon ne se contente pas simplement de faire confiance au Seigneur, de le croire sur parole. Il a besoin encore de preuves. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin encore d'être fortifié. Il veut une sorte de preuve tangible, hein, qu'il puisse voir lui-même de ses propres yeux que c'est vraiment la volonté de Dieu, mais aussi que Dieu va vraiment être là et l'accompagner dans cette bataille. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que Gédéon, finalement, n'est pas tant disposé à ça que de marcher par la foi? Est-ce qu'il est encore trop attaché au fait de marcher par la vue? Et donc les demandes de Gédéon, en versets 37 et 39, eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, n'est-ce pas? Hein, il demande une chose à Dieu, c'est de faire en sorte que cette toison de laine qui va poser sur le sol pendant la nuit, eh bien, que si la toison, elle est remplie de rosée et que le sol tout autour, il est sec, ah ben c'est bon, Dieu, je sais que ce que tu m'as dit, c'est vrai et que tu seras là avec moi. Et Dieu, il fait exactement cela. Il répond à ce défi, à cette demande d'assurance de la part de Gédéon, mais ça ne satisfait toujours pas Gédéon. Hein, peut-être qu'il pensait que bon, c'est quand même de la laine ça aspire l'humidité facilement, hein, peut-être, et on peut trouver toutes sortes d'explications de pourquoi ça s'est produit. Alors il pense à, ben on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur, eh bien, il accepte. Il accepte de faire ce que Gédéon demande pour lui prouver encore une fois, je serai avec toi. Je sais que beaucoup de personnes regardent ce passage et dans beaucoup de commentaires que j'ai lus, c'était souvent la faiblesse de la foi de Gédéon. Et moi, j'ai envie de dire, oui, et c'est pas étonnant. D'où est-ce qu'il sort là, Gédéon? Hein, quelque part, pour lui, c'est comme si ben, c'est le premier chrétien de sa génération, hein, c'est le premier converti de sa génération, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant de sa part d'avoir ces doutes-là, alors que même ceux qui vivent dans des familles chrétiennes, sont chrétiens depuis des années, peuvent avoir des doutes encore. Pourquoi est-ce qu'on serait là à critiquer ici ce que Gédéon demande à Dieu? Moi, ce que je veux surtout souligner, c'est la grâce et la patience de Dieu. Il aurait pu dire, mais enfin, hey, je t'ai dit quand même là. En plus, quelques versets auparavant, j'ai quand même fait quelque chose d'extraordinaire déjà devant tes yeux. Qu'est-ce que tu as encore besoin de preuves ou quoi que ce soit? Non. Non, on ne voit rien de cela. Mais même si Gédéon savait que il avait quand même cette crainte, hein, qu'il s'aventurait un peu sur un terrain dangereux, parce que hein, c'est que ta colère ne s'enflamme point contre moi, mais je veux juste te demander encore une chose là. Mais là encore, Dieu montre sa grâce, sa patience et sa miséricorde. Il nous montre qu'il est un Dieu aimant et patient, qui connaît la faiblesse de notre foi, qui sait de ce qu'on a besoin pour être ses serviteurs qu'il veut que nous soyons. Mais la question demeure pour beaucoup de gens, est-ce que c'est mal de demander des signes à Dieu? Et là encore, hein, j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient, ah, il faut pas demander des signes à Dieu, machin, etc. Bon, bref, mais bon, on oublie quand même certaines choses. Un, c'est pas le seul dans les Écritures à demander des signes. Et ce n'a pas été le seul à en recevoir. On a Abraham, n'est-ce pas? Le serviteur d'Abraham qui avait demandé à l'Éternel, quand Abraham l'avait envoyé pour choisir une épouse pour son fils Isaac, le serviteur, il a dit, bon, Dieu, si tu fais ça, 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 je sais que ce sera elle. Et l'Éternel le fait. Il a demandé la direction de l'Éternel par un signe. Moïse aussi, il demandait des signes. Hein, si je vais là-bas, mais personne ne va me croire, etc. Et il lui donne le signe avec le bâton qui se transforme en serpent, etc. Et Moïse, il avait besoin d'assurance. On sait que Moïse, il était un peu peureux. Hein, il avait dit à l'Éternel, mais moi, je sais pas très bien parler. Bon, bref, il a certes cherché des excuses et il avait besoin d'assurance. Jonathan également, hein, il se fia également à un signe. Hein, si les soldats ils font ça, c'est que c'est l'Éternel est avec nous. S'ils font ça, ben on se regardera en retrait. Le roi Ézéchias, lui aussi, quand le prophète Ésaïe vient lui dire que, eh ben, écoute, tu vas être guéri finalement. Tu peux me prouver cela? Il a cherché de l'assurance. Et pourtant, on sait que bon, Ézéchias, hein, parmi les rois de Juda, ça a été un de ceux qui a été les meilleurs, n'est-ce pas? Mais il est vrai que dans les Écritures, nous avons aussi Jésus qui a dit à plus de deux reprises hein, que il a déclaré hein, que cette génération mauvaise et adultère hein, qui réclame des signes, parce que les gens voulaient des miracles, voir des miracles, etc. Alors, est-ce que c'est mal de vouloir demander des signes à Dieu? Je crois que c'est surtout l'objectif de cela. La raison, je veux dire, la motivation de demander un signe à Dieu qui est importante. Pourquoi? Parce que la génération qui entourait le Seigneur Jésus, c'était une génération d'incrédules, mais totalement d'incrédules, qui, malgré déjà ben, les preuves prophétiques, malgré les miracles déjà accomplis qui confirmaient ces prophéties-là, ils refusaient encore de croire. Et ils demandaient encore des signes et des miracles. Et ça aurait dû suffire. Ça aurait dû suffire pour eux de reconnaître en Jésus-Christ le Messie, un temps attendu, mais ils ne l'ont pas fait. Donc je crois que c'est important de différencier entre ce que ceux qui demandent un signe pour que cela suscite la foi. Et ceux qui demandent un signe à Dieu pour les conforter dans une décision, pour les rassurer, pour les éclairer concernant la volonté de Dieu pour eux. Et visiblement, pour moi, je crois que Gédéon, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est qu'il avait encore besoin d'assurance, non pas concernant la volonté de Dieu, il savait ce qu'il devait faire, mais concernant cette promesse que je serai avec toi et je t'accompagnerai dans cette bataille. Gédéon, il avait reçu lui aussi assez d'informations par rapport à déjà l'appel de Dieu dans sa vie, mais aussi avec ici ce signe, avec cette toison. Bon. Mais Dieu, encore une fois, il a été patient, il a été gracieux. Oui, on pourrait dire par rapport à la faible foi de Gédéon, mais encore une fois, dans le contexte d'où il sort, est-ce qu'on peut le blâmer d'avoir ce moment peut-être de doute concernant le fait que Dieu l'accompagnerait? Lorsque la volonté de Dieu pour nous est claire, c'est simple. Il faut obéir. On n'a pas besoin de demander des signes supplémentaires à Dieu quand il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. On n'a pas besoin de demander des signes supplémentaires. Mais lorsque il y a des incertitudes, on peut demander à Dieu de la sagesse, on peut demander à Dieu du discernement, mais voilà, quand il s'agit de croire en la parole de Dieu elle-même, dans ses promesses, avons-nous vraiment, nous, aujourd'hui, encore besoin de signes, alors qu'on a un ouvrage qui est rempli de témoignages de comment Dieu a déjà agi, lorsqu'on a déjà le témoignage même de personnes autour de nous, de comment Dieu agit dans leur vie, et même pour nous-mêmes, de se remémorer de ce que Dieu a déjà accompli, de ce qu'il a déjà fait pour nous. Mais par rapport à Gédéon, on peut dire ceci également, c'est qu'on possède quand même deux atouts majeurs par rapport à lui. Un, nous avons la parole de Dieu dans son intégralité, donc on a toute l'information dont on a besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse, ne plus avoir ses doutes ou d'avoir de quoi lutter contre ses doutes. Et puis on a également l'Esprit Saint, dont oui, Gédéon a été revêtu, mais vous avez remarqué, même s'il était revêtu de l'Esprit Saint, ça n'a pas empêché d'avoir ce moment peut-être de doute. Mais lorsque Dieu nous guide, nous dirige, les choses vont couler de source. Ça va s'aligner aussi avec ce qu'il nous dit déjà dans sa parole. Je crois que le test simple à chaque fois, c'est que si on est on se pose la question de « est-ce que je peux faire ceci ? Est-ce que je dois faire cela ?» C'est « est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui dit que tu ne devrais pas le faire ?» Ou que « oui, il faut le faire ?» Et à partir du moment où tu as la réponse dans les Écritures, on n'a pas besoin de demander de signe de quoi que ce soit. On le fait. Et donc on a ces deux assurances qui vont produire, oui, la paix dans le cœur, qui vont nous aider à faire ces choix dans notre vie, être assurés que c'est là que Dieu veut que nous soyons. L'Esprit de Dieu, en corrélation avec la parole de Dieu, c'est ce qui nous amène à comprendre, oui, ça c'est la volonté de Dieu. Mais parfois, il est vrai aussi qu'on a besoin que Dieu il agisse de manière extraordinaire pour nous montrer que ce que nous croyons comme étant la volonté de Dieu, c'était pas ça. Parfois, on peut même être impliqué et actif dans des choses qui sont bonnes pour le Seigneur et que le Seigneur demande, mais ce n'est pas là l'endroit où Dieu voulait qu'on le fasse. On a l'exemple de Paul et de ses compagnons avec cette vision du Macédonien. Et à chaque fois, ils essaient d'aller dans une direction, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, les en a empêchés. Mais attends, leur volonté, c'était quand même d'aller prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Mais Dieu dit, non, je veux que tu ailles là-bas le faire. Donc c'est là où on se rend compte que oui, Dieu, il peut aussi agir de ces manières-là pour diriger ses enfants dans l'endroit où ils doivent être pour le servir. Mais lorsque l'on sait ce que la parole de Dieu enseigne et que on est convaincu par l'Esprit Saint que c'est là que nous devons être, s'il n'y a rien vraiment qui s'oppose à cela, nous devons le faire, nous devons agir. Et plutôt que de rechercher des signes, même par des prodiges, je crois qu'on devrait être déjà satisfait si Dieu, il nous montre clairement « je veux que tu fasses ceci ». Eh bien, de le faire. Alors, tout ceci pour nous rappeler que ici, oui, même dans la faiblesse de sa foi, on a quand même déjà vu un Gédéon qui a fait ce que l'Éternel lui a demandé, malgré les craintes, et qui, lorsqu'il y a des moments de doute, demande à l'Éternel de le rassurer, oui, par des signes. Et l'Éternel le fait. Et ce que moi je trouve vraiment de remarquable, où est-ce que dans ce passage, Dieu critique la foi de Gédéon? On n'a rien dans ce passage, encore une fois, où Dieu va dire, mais Gédéon, ta foi est trop faible. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on passe de cela, on passe de Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Et puis, chapitre 7, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. C'est-à-dire que, il n'y a pas de transition. On passe de Dieu le rassure, et puis maintenant, on est prêt à y aller. Et c'est ça que je veux souligner dans ce passage. C'est qu'avec la force que Dieu donne, malgré les doutes, malgré une foi qui peut être faible, on peut inspirer les autres et on peut faire des grandes choses. Mais voilà, quand on remet les choses entre les mains de l'Éternel et qu'on s'appuie sur ce qu'il nous a déjà dit, et même si on a besoin d'être encore réconforté dans ce qu'il nous a dit, eh bien, on est prêt à y aller. Dieu y donne cette force. Et comme on va le voir, c'est vrai que quand, si moi j'essaie de me mettre à la place de Gédéon et je me dis, bon, l'Éternel il veut que je fasse ça, bon, d'accord. Mais tout seul. Et là, il va faire appel, oui, à toute le clan, la tribu et d'autres tribus, et 32 000 hommes qui viennent. Ouais, je crois que c'est bon là. On peut le faire. Là, je crois que Gédéon, il avait encore beaucoup à apprendre sur la manière dont l'Éternel agit, et c'est ce qu'on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine.